Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Béatrice Simoneau, bonjour.
Bonjour.
Vous vous consacrez aujourd'hui à l'écriture. Vous avez publié chez Actes Sud Le fou de la diagonale, Claude Parent, architecte, en septembre 2008. Et dans une carrière précédente, si je puis m'exprimer ainsi, vous avez été professeur à l'école d'architecture de Normandie. Et puis vous avez aussi créé un centre d'art contemporain, l'usine Fromage. Vous avez été commissaire d'Archilab et puis également du pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise. Récemment, 2002. Et l'architecture est donc un domaine que vous connaissez bien. Et vous venez donc de publier une biographie de Claude Parent. Il n'y en a pas, je crois, jusqu'à... Très peu, il y en a eu une.
Il y en a eu une de Ragon.
Voilà.
Michel Ragon a fait une biographie de Claude Parent dans les années 80. Mais celle-ci, c'est un peu différent. C'est-à-dire, moi, je n'utilise pas d'ailleurs le terme de biographie. Pour moi, c'est plus un portrait, une histoire de vie, qui n'est d'ailleurs pas chronologique. Et qui met l'accent sur les rapports entre l'œuvre et la vie, mais sans limiter ou sans réduire l'œuvre à la vie ou inversement. C'est-à-dire que c'est vraiment dans leur relation que dans la relation à la vie, comment s'est fabriquée finalement la création de Claude Parent.
Effectivement, c'est un livre qui est vraiment consacré à cette question qui revient tout au long des pages. Alors, vous avez écrit ce livre. Et la première fois que vous avez entendu parler de Claude Parent, quand était-ce et à quelle occasion ?
Écoutez, j'ai entendu parler de Claude Parent, je ne me souviens pas. Je ne m'en souviens pas parce que ça remonte vraisemblablement à très loin. Par contre, j'ai connu Claude Parent, j'ai côtoyé Claude Parent, essentiellement Archilab au début. Donc, puisqu'il était une bonne partie de son œuvre est dans les collections du FRAC Centre à Orléans.
Qu'est-ce que c'est que le FRAC ?
Le FRAC, c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Celui du Centre est particulièrement consacré à l'architecture. C'est-à-dire que sa collection est essentiellement composée de maquettes ou de dessins d'architecture. Et elle a été d'ailleurs à l'initiative de Frédéric Miguérou, qui à l'époque était conseiller aux arts plastiques.
On en reparlera peut-être, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour
Claude Parent. Qui compte énormément, et qui maintenant, ce FRAC est dirigé par Marie-Ange Braillère, qui connaît très bien Claude Parent,
qui est très proche. C'est là que vous avez rencontré Claude Parent ?
Voilà, c'est là où je l'ai rencontré, et où je l'ai rencontré, mais bon, comme on rencontre quelqu'un dans un colloque ou c'est-à-dire d'une manière finalement relativement distante. Mais le personnage me fascinait, d'abord parce que son œuvre me fascinait, mais aussi son écriture me fascinait terriblement. Donc j'ai eu le personnage, était très, très attachant en apparence, en même temps très ambigu. Et donc voilà, du coup, écrire sur lui m'intéressait.
Et c'est venu comment l'idée alors de ce portrait ?
Eh bien, bon, voilà, je suis psychosociologue de formation. Et donc... il y a très longtemps que j'avais envie d'écrire des histoires d'artistes ou d'architectes. En fait, ce qui m'intéresse finalement, c'est le rapport à la création. C'est comment la création se fabrique et elle se fabrique, comment elle se fabrique en rapport avec la vie. Donc, Claude Parent me semblait particulièrement intéressant pour ce type d'exercice. Et je lui ai posé la question. J'étais très intimidée d'une certaine manière de lui poser la question au départ parce que en même temps, il a l'air comme ça sous des abords très bienveillants et très charmants. C'est un monsieur qui a une verve qui peut être tout à fait assassine. Et donc, j'y suis allée à petits pas. Mais apparemment, c'était quelque chose qu'il attendait. C'était le bon moment. Il avait lui-même écrit une espèce d'autobiographie.
C'est dans les années 70.
Oui, c'est ça. Et donc, dans cette autobiographie, il disait justement, il concluait d'une certaine manière en disant « Mais finalement, je n'ai peut-être pas parlé de tout ce dont il aurait fallu parler, des non-sens qui ont jalonné mon parcours, des périodes difficiles. J'ai peut-être un peu rendu trop lisse cette histoire. » Et donc, finalement, il faudrait que quelqu'un d'autre écrive sur tout ça.
Alors, on connaît Jean-Claude Parent pour son œuvre architecturale, mais c'est un très grand dessinateur.
C'est un grand dessinateur.
Et ses dessins d'architectes sont superbes. Ils ont été exposés dans des galeries, on en connaît quelques-uns. J'aimerais qu'on parle, pour commencer, ce portrait sonore, grâce à vous, de Claude Parent, de l'importance du dessin pour lui.
Bien déjà, il a commencé à faire des études d'architecture, bien qu'il n'y était pas du tout prédestiné par sa famille, mais il a commencé à faire des études d'architecture parce qu'il dessinait bien.
Oui, la famille le destinait à autre chose, et trouvait qu'il dessinait très bien. Et
voilà, la famille le destinait à devenir polytechnicien, et il a commencé la préparation à Polytechnique, mais c'était vraiment pas tout à fait son orientation. Et comme il dessinait bien, on a dit, pourquoi pas architecture ? Je crois que c'est son frère, d'ailleurs, qui avait été très...
Vous le racontez avec beaucoup d'humour, justement.
Donc, il a donc toujours beaucoup dessiné. Il dessinait beaucoup. Et... bon, il était très tenté en même temps par l'art. Claude Parent est architecte, mais entre l'art et l'architecture, pendant un moment, on aurait pu penser qu'il allait osciller entre les deux. Comme il le dit lui-même, d'ailleurs, peut-être maintenant, certains aimeraient bien que je ne fasse plus que cela, parce que ça dérangerait beaucoup moins. Donc, le dessin, oui, c'est quelque chose de très important pour lui. Comme il le dit, en fait, ce n'est pas la forme qui est son intérêt principal, mais il n'y a pas de vérité formelle pour Claude Parent. C'est ce qui lui a permis, d'ailleurs, de changer d'ordre. Sur le plan de l'architecture, au fur et à mesure de sa carrière. Il n'y a pas de vérité formelle, mais par contre, la forme est quand même quelque chose d'important, puisque c'est quand même l'aboutissement des choses. Et c'est le dessin qui, finalement, est l'outil qui va permettre à la forme d'émerger. Donc, le dessin, pour lui, c'est un révélateur. Et maintenant, les architectes, c'est vrai, dessinent beaucoup moins. Ils utilisent de plus en plus l'outil informatique. Et Claude Parent était assez hostile à l'utilisation de l'outil informatique pour rendre la forme. Par contre, il s'intéresse beaucoup à l'informatique, néanmoins, actuellement, dans la mesure où l'informatique peut être un outil de génération de la forme. Donc, d'un point de vue tout à fait différent. Mais quant au dessin, pour lui, le dessin, c'est le crayon. Enfin, l'outil, c'est le crayon.
Et dans l'avant-propos là, du livre publié chez Actes Sud, il y a un avant-propos de Jean Nouvel qui, à propos du dessin, du trait, justement, dit que cette relation directe, rapide du trait à la pensée, voilà ce que Claude Parent m'a appris, dit-il.
Oui, oui. Ces dessins sont effectivement très beaux, très, très forts, très puissants. Ils sont très abstraits.
Et en même temps, il y a parfois des petits bonhommes. Il s'est toujours posé la question, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas ?
Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, il en met, parce que entre ces deux orientations qu'il aurait pu suivre, être artiste ou être architecte, il a finalement opté pour l'architecture. Et donc, pour lui, l'architecture, c'est autre chose que l'art. L'art poursuit un autre enjeu, il y a un autre enjeu entre l'art et l'architecture. Et donc, il est nécessaire pour lui de rajouter, il s'est posé la question, mais il est nécessaire pour lui finalement de rajouter des petits bonshommes pour bien montrer qu'il a opté en même temps pour l'architecture.
Alors, dans son œuvre architectural, on pourrait dire aussi sa pensée architecturale, ses tribulations d'architecte, je ne sais pas. Claude Parent a laissé au public, on va dire, quelques grandes œuvres majeures qu'on connaît, comme l'église du Banlay, la maison de l'Iran à la cité universitaire, qu'on peut voir comme ça. Il y a aussi beaucoup de maisons individuelles que le grand public ne connaît pas, à part les spécialistes. On n'a pas l'occasion d'en faire l'expérience, c'est-à-dire d'y aller, de visiter, de voir.
Oui.
En quoi a-t-il été fidèle tout au long de son parcours dans ses tribulations d'architecte, justement ?
Mais je crois que sa fidélité essentielle, elle est dans la recherche du pari, elle est dans la recherche du défi. Claude Parent, justement, je disais tout à l'heure, n'a pas de vérité formelle. Donc, il a travaillé avec des gens extrêmement différents et il a tracé son chemin entre tous ces gens-là, qui étaient vraiment opposés. Avec qui il a pu travailler, par exemple, disons qu'il a eu trois partenaires essentiels dans sa carrière, qui étaient Lionel Shine, tout au début, quand il était même étudiant. Mais donc quand il était étudiant, avec Lionel Shine, ils ont parcouru un certain chemin. Parallèlement, il travaillait avec Bloch, avec André Bloch, qui était, lui, dans une position un peu différente de celle de Shine, et parallèlement encore avec Virilio, qui, lui, était dans une position vraiment fondamentalement différente.
Vous appelez ça, dans votre livre, les itinéraires partagés.
Oui, c'est ça.
C'est une belle formule.
Oui.
De cette collaboration, de leur rapport aussi, parce que ce sont des rapports compliqués quand même, parfois
oui,
conflictuels.
Parce que justement, comme son problème n'était de ne pas s'attacher à une ligne particulière, mais de créer, de fabriquer son identité entre tout cela.
La confrontation, c'est un petit peu le...
C'était
ça qui
presque
est
délibéré.
Resté.
Voilà. Et donc, la confrontation, c'est ce qui lui faisait finalement, qui lui permettait de trouver sa propre voie à l'intérieur de tout ça. Donc, et bien que parfois ayant des parcours parallèles, c'est-à-dire que par exemple la maison de l'Iran, qui était plutôt faite dans un rapprochement avec André Bloch, a vu le jour définitivement, en même temps que l'église de Notre-Dame-du-Banlay, l'église de Nevers, qui elle était faite vraiment dans une perspective de travail avec Virilio, et donc qui a été faite avec Virilio d'ailleurs, puisqu'elle est co-signée. Et c'est cette apparente ambiguïté dans les chemins qu'il a parcourus qui a sans arrêt jalonné son travail. Mais ça n'est pas une ambiguïté, c'est une volonté. C'est une volonté de trouver sa route au milieu de tout cela. Et donc, cette confrontation lui est nécessaire. Le conflit lui est nécessaire et il met un défi.
Alors, il a aussi trouvé sa propre voie, on va dire, dans l'architecture, avec l'architecture oblique, avec la fonction oblique.
Absolument.
Comment est-ce qu'il a pu justement trouver là son identité, l'affirmer? Ça a été là aussi l'occasion d'autres combats qu'il a menés, alors cette fois de plus en plus seul. Ça a été son affirmation d'architecte sans associé un peu quand même. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'originalité de cette démarche, de cette pensée pour des non-spécialistes en architecture?
Oui. Mais bon, je pense que justement, ce que je trouve intéressant chez Claude Parent, et là, cette position architecturale, cette théorie architecturale à sa vie même, c'est qu'il est toujours dans l'entre-deux. C'est-à-dire que comme il était dans l'entre-deux, entre ses différents
partenaires, amis
avec lequel il a eu des relations conflictuelles aussi d'ailleurs, mais enfin, disons amis. Comme il était toujours dans cet entre-deux, j'ai parlé de l'entre-deux à propos de l'oblique.
Je vous demandais de nous présenter l'oblique pour des non-spécialistes.
Voilà. Claude Parent a déroulé sa carrière dans l'entre-deux. L'entre-deux, d'ailleurs, pour lui, c'est la création. L'entre-deux. L'entre-deux monde, l'entre-deux partenaire, l'entre-deux. C'est vraiment sur ce sillon qu'il a effectivement tracé son chemin. Et l'oblique, finalement, c'est quoi? C'est l'entre-deux entre la verticale et l'horizontale. Et donc, il y a quelque chose qui est du même ordre chez lui. Alors, pourquoi l'oblique? Pourquoi l'oblique? Parce que pour lui, ça n'est pas un parti pris formel. Pour lui, l'oblique, c'est un outil qui permet de tester d'une certaine manière l'architecture. Ce que je voulais dire, c'était que finalement, ce qui était important, c'était de mettre en avant pour lui, c'était l'effort.
Oui.
L'architecture n'est pas...
Il ne veut pas une architecture de confort.
Il veut une architecture de l'effort.
De l'effort, de la déstabilisation.
Voilà,
un petit peu.
Et cette idée de voilà, c'est le mouvement, la déstabilisation. Et donc, sa première architecture oblique, en fait, c'est... Bon, il y avait déjà quelque chose dans la maison sous le trait qu'il a réalisé en 57. Mais sa première architecture oblique, c'était quand même la maison Druche. Et la maison Druche, qu'il a réalisée, qui a été terminée en 63, qui était en fait le résultat d'un cube basculé. Et donc, le cube basculé introduisait déjà complètement l'oblique. Il y avait le déséquilibre, il y avait le mouvement. Et de là, c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il a rencontré Virilio. Virilio a été assez fasciné par cette maison.
C'était audacieux.
Oui, c'était audacieux. Et il a été fasciné par cette maison. Je crois que ça lui a posé beaucoup de questions, puisque d'ailleurs, les photos qui sont publiées dans le livre de la maison de Ruche sont des photos qui ont été prises par Virilio. Et il a de là, en fait, Virilio lui a permis de théoriser, d'aller plus loin, de radicaliser cette réflexion sur l'oblique, sur le mouvement, sur le basculement. Et de là est née cette théorie de l'oblique qu'il a formulée avec Virilio, en créant le mouvement Architecture Principe.
Alors, c'est, on a dit, un architecte, bien sûr, oui. un dessinateur, c'est aussi un écrivain. L'écriture a beaucoup compté, la théorie, avec Virilio, mais même seul, parent, publie, oui. Écrit, il oui. Publie, oui. Il dessine. De ces écrits, qui doivent être autant de jalons et d'étapes franchies, il a parlé un peu de ce travail de l'écriture avec vous.
C'est-à-dire l'écriture, c'est vraiment quelque chose de constant dans son travail. Il a même, on pourrait même dire qu'il a commencé par ça quand il était donc justement étudiant avec Yonel Schein. Ils ont commencé par écrire.
Oui.
Et comme ils avaient beaucoup de
c'est
difficultés,
comme ça qu'ils s'en fait reconnaître aussi.
C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et comme ils avaient du mal à se faire publier, à part dans Architecture d'aujourd'hui, puisqu'ils ont travaillé beaucoup avec André Bloch, qui en était le fondateur, mais comme ils avaient du mal à se faire entendre, ils ont beaucoup utilisé la presse quotidienne.
Alors oui,
la
j'ai
grande
appris
presse.
Avec votre livre que donc, dans France Soir, dans Elle, oui. Claude Parent n'hésitait pas à prendre la plume et à être publié. Mais alors, par contre, ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est, c'est qu'effectivement, dans Elle, France Soir, quand ils avaient quelque chose à dire, ils le disaient. Et ils étaient publiés. Alors, il y a un côté aussi, vous dites beaucoup dans l'ouvrage que leur violence verbale a été évidemment mal ressentie et leur a valu beaucoup d'ennemis. Quelle était cette posture voulue par parents et qu'est-ce qu'il y avait de si violent ?
Eh bien, ils étaient un peu contre tout, à vrai dire, au départ, avec son ami Yonel Schein. Et dans ses écrits, il dénonçait aussi bien le prix de Rome qu'il ne dénonçait l'enfermement des arbres à Paris, dans des cercles de fer. Enfin, il y avait chez eux, tout était prétexte quand même à révolte. Bon, il était rebelle d'une manière générale. Claude Parent, c'était un rebelle.
Mais il aurait pu être pris pour le côté surréaliste, un côté...
C'est-à-dire que justement, ce qui l'intéressait, il s'intéressait à tout ce qui était finalement dans tous les mouvements artistiques, ce qui était de l'ordre de la rébellion. Il suivait de très près le travail des lettristes, aussi bien au niveau du cinéma qu'au niveau de l'écriture. Il suivait bien sûr les surréalistes auparavant, et puis ensuite les situationnistes, avec lesquels il a d'ailleurs entretenu des relations plus proche encore à l'époque où il a travaillé avec Virilio. Claude Parent a toujours été de ce côté-là. C'était quelque chose qui se manifestait non seulement dans ses écrits, cette violence, non seulement dans ses écrits, non seulement dans son attitude, mais même dans son habillement. À l'époque, il était Zazou.
Oui, mais c'est pas de la violence, ça.
Ah, c'était quand même un mouvement...
C'était une façon de se démarquer, mais ce n'était pas forcément de la violence.
C'était quand même un mouvement de contestation.
Ah, voilà. Oui.
Voilà. C'était un mouvement de contestation. Et c'était à ce titre-là qu'il s'habille en Zazou. Ce n'était pas pour des raisons de mode. Il n'a jamais voulu, justement, suivre une mode quelconque.
Ah non, ce n'est pas son...
Ce n'est pas du tout son... Donc, quand il s'habillait en Zazou, c'était effectivement dans une volonté de contestation. C'était... Il était fondamentalement quand même à la recherche de la liberté. Ce qui le préoccupait au maximum, c'était... Il s'inscrivait aussi fondamentalement contre la société, dans la mesure où il avait un mal-être dans cette société. Il n'y trouvait pas sa place. Il n'avait pas trouvé sa place quand
Mais
il était
aujourd'hui,
étudiant.
Quand on relit ses écrits, qu'est-ce qui est violent ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce regard ? Est-ce qu'on percevrait ce qu'il écrit ? ce qu'il a écrit comme quelque chose de violent.
Oui, tout à fait.
Dans son contenu.
Tout à fait. Il écrit encore d'une manière très violente. Il, il a écrit beaucoup de petits livres, comme Archicuit, Cuit Archicuit, etc., qui sont des pamphlets absolument extraordinaires.
Et des portraits de ses confrères architectes.
Et les portraits de ses confrères architectes sont aussi...
Il a un ton acerbe.
Plus que ça, il est... bon, je dis assassin parce que je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'il est capable de vraiment de faire une volée de bois vert sur tout et sur n'importe quoi. Enfin, pas sur n'importe quoi, justement. Mais il est vraiment capable d'incendier les gens dès qu'il est en désaccord. Mais c'est pas une méchanceté ou une violence gratuite pour lui. C'est une violence qui est vraiment fondamentale, qui est une violence
critique
dans son rapport au monde, qui est une violence contre la société, contre justement parce qu'il n'y trouvait pas sa place.
Bon, alors maintenant, on peut dire qu'il y a trouvé sa place quand même.
Mais écoutez, c'est pas si simple.
Oui.
Voilà. C'est pas si simple. D'ailleurs, il a, parmi les écrits de jeunesse, pas tellement de jeunesse d'ailleurs, puisqu'il y a même un article dont j'ai publié un extrait dans le bouquin, qui est relativement récent, qui date des années 90. Il parle de l'académie comme un lieu où on s'encroûte un peu, quoi. Voilà, hein, pour parler crûment. Et il y a tout un passage le passage d'un texte qu'il avait écrit dans Architecture d'aujourd'hui et où il parle justement d'Andreu et de l'entrée d'Andreu à l'Académie, et où il explique pourquoi il est allé se fourvoyer à l'Académie. Il y a une réponse aussi d'ailleurs d'Andreu,
de
Paul Andreu, qui est très drôle et qui lui dit que ma foi, il avait quand même été déjà candidat. Mais c'est vrai que c'est l'ambiguïté de parents. Enfin bon, le sous-titre de ce livre était Entre barbarie et civilité. Mmh. Et c'est vrai que Claude Parent est un rebelle, mais qu'en même temps, il est très civil et il est très... Et les honneurs, pour lui, sont une forme de reconnaissance. Peut-être pas celle qu'il aurait souhaité en premier lieu. Il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir dans les réalisations qui lui ont été confiées. Par contre, du coup, il a toujours brigué les honneurs. Parce que c'était une manière pour lui, finalement, d'avoir quand même une certaine reconnaissance sociale, même si ce n'était pas ça qui importait. Et donc, il a eu toutes les médailles. Il est officier de la Légion d'honneur. Il a les palmes académiques. Il est aussi officier des palmes académiques. Il a accumulé les décorations, les grands prix.
Et il est fier de ses distinctions.
Et il en est tout à fait fier. Et en même temps, toujours. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir un regard critique sur tout ça. Quand il est entré à l'Académie, voilà la lettre d'Andreu, oui. Quand il est entré à l'Académie, la réception à l'Académie, la tradition est avec l'habit vert de porter un gilet blanc. Claude Parent avait porté un gilet noir. Ce qui d'ailleurs avait été remarqué par Roger Taillebert qui lui en avait fait... publiquement, non pas le reproche parce qu'il avait reconnu le clin d'œil de Claude Parent à toujours cette distance qu'il avait, à la fois la recherche des honneurs et en même temps la distance qu'il entretenait par rapport à cela.
Alors avec Paul Andreu, ils entretiennent quand même les meilleures relations.
Oh, ils entretiennent de bonnes relations avec Paul Andreu, il n'y a aucun problème.
Alors juste à titre d'exemple, parce que ça signe aussi le personnage de Parent, même si c'est dans le regard de Paul Andreu. Mon cher Parent, le parfait dandy que tu es et que j'ai toujours aimé, vois-je. Juste, je n'ai pas l'habitude d'être bien habillée. De point, le costume m'engonce. Il est vrai aussi que l'épée m'a toujours posé des problèmes. À l'école polytechnique, déjà, il m'arrivait de m'y prendre les pieds. Je n'ai jamais pensé, cependant, que cela fût une raison pour mépriser cette école, encore moins pour ne pas y rester. Que tu n'aies pas été élue par cette académie, je ne m'en réjouis pas, comme toi. Ta verve, ton ardeur polémique, ta grande complaisance de l'architecture manqueront à cette institution, mais tant pis. Cependant, méfie-toi de ce que pourrait être une lecture inamicale. Certains à te lire pourraient penser que l'opinion que tu exprimes sur l'Académie des Beaux-Arts, qui t'a hélas refusée mais à laquelle tu as été candidat, a déjà été résumée par La Fontaine. Ils sont trop verts. Verts, oui, mais jamais trop. J'espère bien que toi et moi le resterons bien jusqu'au bout. Verts, c'est-à-dire jeunes, irrévérencieux, mais sérieux, etc. Voilà. Donc, et depuis 2005, et bien Claude Parent est membre de l'Institut.
De l'Institut, oui. Absolument. Et je pense que cette recherche, juste puisque André parle de l'habit, de la manière de porter l'habit, Claude Parent a toujours été très soucieux de son apparence, oui. Et il a toujours, il avait un tailleur depuis tout jeune. Il avait un tailleur qui est devenu quelqu'un de très célèbre,
oui,
qui était Féruche.
Un grand créateur de mode.
Il l'appelle son tailleur, mais c'est un grand créateur de mode. Effectivement, c'est lui qui avait inventé le costume Mao.
Ben oui, qui a fait fureur dans les années 60, enfin après 68.
Oui.
À ce moment-là, enfin, 68,
avant, oui, avant. Et puis qu'il a porté, d'ailleurs, qu'il portait avec Virilio, tous les deux.
Tous les deux.
Et s'habillait en costume Mao.
Donc le costume, l'importance de l'habit, oui, sont des choses qui comptent, le luxe
sont des
aussi,
choses qui sont...
l'apparat.
Ah, oui, l'apparat.
Mais pas dans le
la
sens
voiture.
De la possession, c'est pas dans cet esprit-là.
Non. Non, pour lui, c'était aussi une manière de se démarquer. Enfin, c'était une manière de se montrer comme quelqu'un de différent. En fait, il a toujours voulu quand même affirmer sa différence. Et la voiture, l'habit, il a toujours été très élégant, mais toujours démarqué d'ailleurs. Ça a toujours été une élégance.
C'est juste un dandy.
C'est un dandy, mais c'est pareil, ce fait d'être un dandy, pour lui, il a une signification sociale. C'était se montrer comme quelqu'un de différent, s'affirmer comme quelqu'un de différent. Il explique d'ailleurs que ça n'a pas toujours été très positif, parce que ça dérange aussi. Mais il a toujours voulu l'affirmer. Il raconte une anecdote qui est très très drôle, enfin pour ma part. Il raconte comment en 68... il s'était présenté à la porte de l'Odéon avec sa Rolls et il avait demandé parler au camarade Paul. Il s'agissait de Virilio, évidemment. Mais je veux dire, donc il y avait de la provocation dans cette chose-là.
Mais... Et Nouvelle dit dans l'avant-propos que d'abord il était subjugué par ce personnage.
Bien sûr, oui. Ouais, d'ailleurs, il en a gardé certains traits.
Voilà. Le petit provincial que je suis est bluffé par l'élaboration du style du personnage Parent, si décontracté, si ironique dans ses costumes Féruche Colmao, ses chemises colorées qui révèlent ses cravates amples en contraste chromatique. Il corrige avec son stylo Parker. En argent, il arrive en Porsche 911 bleu marine. Souvent, il travaille dans le secret de son bureau avec Paul Virilio, dont la veste est aussi col Mao, mais son image à lui oscille plutôt entre ecclésiastique et militaire.
Voilà. Donc le photographe d'ailleurs, Gilles Herman, qui a fait de très beaux portraits de Parent et Virilio, les appelait le prince et le Jésus. Parce qu'effectivement, il y avait chez Virilio ce côté un peu plus rigide, disons, et cette élégance naturelle qu'il y avait chez Claude Parent, qui était en contraste, qui marchait, qui fabriquait.
C'est un personnage pour vous, Béatrice Simoneau, Claude Parent ?
Oui, c'est
un personnage.
C'est plus qu'un personnage. Oui, c'est un vrai personnage. C'est un personnage. Bon, d'ailleurs, d'une certaine manière, il revendique d'être un personnage. Ce qu'il revendique, c'est son originalité, parce que son originalité, c'est un peu réducteur de dire ça, mais sa particularité et sa différence, ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour lui extrêmement important. Et donc, oui, c'est un vrai personnage. Ça.
Béatrice Simoneau, marquons une courte pause et on va vous retrouver dans quelques instants pour nous parler du livre « Le fou de la diagonale, Claude Parent, architecte », publié chez Actes Sud. retrouve Béatrice Simoneau.
On n'a pas vraiment une image très fidèle de lui à l'extérieur.
Vous avez enseigné donc l'architecture. Oui. Les étudiants que vous avez vus, l'image de Claude Parent a évolué, j'imagine.
Oui, mais
il y a eu des moments où... Comment était-il perçu, par exemple?
On connaissait son architecture, on ne connaissait pas Claude Parent. Il n'était pas connu tellement. Les étudiants ne connaissaient pas tellement ses écrits, ne connaissaient pas tellement, en fait, ils ne connaissaient pas tellement ce genre de choses-là. Mais ils connaissaient, bon, tout le monde connaissait évidemment Sainte Bernadette du Banlay. On ne connaissait pas trop non plus ses maisons. Pourtant, ses maisons ont été, ce qu'il dit lui-même, être le laboratoire de son
idées,
architecture. C'est là où toutes ses idées, d'ailleurs, ses idées de, par rapport à la pensée moderne, dans ses premières maison, il y avait déjà l'idée du décalement par rapport au plan moderne. Il y avait ensuite l'idée du basculement, l'idée du mouvement. Donc il y a toujours eu
une application.
Voilà. Et donc c'est là où il a testé finalement ce qui ensuite était théorisé. Ce que je disais, la maison Druche qui a quand même donné naissance pour moi en grande partie à la théorie de l'oblique.
Et alors, quelle image? Comment était-il perçu?
Bon, il était perçu comme un théoricien, mais personne ne le connaissait comme personnage.
Comme non. Personnage.
Pas dans les années où j'ai enseigné, non.
Et comment est perçu son œuvre architecturale?
Comment est perçu son œuvre architecturale? Actuellement, Claude
Aujourd'hui,
Parent
il
est de plus en plus
ans.
Revendiqué. Il a 85 ans, bientôt 86, et il est de plus en plus revendiqué. Et on retrouve, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir comment Nouvelle, par exemple, qui a été donc vraiment, je crois, son élève d'une certaine manière.
Donc il a rencontré Claude Parent à ses tout débuts.
Il était encore étudiant
quand il a travaillé.
Voilà, quand il a travaillé chez Claude Parent, quand il a sonné à sa porte, et donc il était tout à fait étudiant. Mais mon parent qui est quelqu'un de très très fin avait assez vite perçu l'intérêt, l'intelligence, la force de Jean Nouvel. Et il a d'ailleurs, il parle de lui comme d'un relanceur par moment. C'est-à-dire que Nouvel l'a beaucoup poussé à aller jusqu'au bout de choses qu'il disait. En particulier, je pense à ce fameux bâtiment, ce centre commercial qui a été réalisé Sens et qui est vraiment une de ses plus belles œuvres. Et qui est une œuvre qui participe de cette théorie de l'oblique et qui a été réalisée sur une espèce de pari, là aussi, avec Nouvel. Nouvel lui avait dit, Parent avait fait une première esquisse en trois traits de ce centre, de trois traits parallèles, obliques, de ce centre commercial. Et Nouvel lui a dit, chiche, faut que vous alliez jusqu'au bout. Et Parent dit d'accord. Chiche, on va jusqu'au bout. Et effectivement, ce bâtiment est absolument extraordinaire pour ma part. Quand on pense en plus qu'il a été fait en même temps, c'est-à-dire que en même temps qu'il faisait Sainte Bernadette, il produisait un bâtiment qui était un centre commercial. Donc en même temps qu'une architecture religieuse, il réalisait un centre commercial et avec la même force, la même intensité. Ça, je trouve que c'est tout à fait exemplaire aussi par rapport à l'architecture. Enfin, même. Et donc, ce bâtiment, malheureusement, n'a pas été classé. Malheureusement, il est en train de disparaître. Malheureusement, il est en piteux état. Et ça serait vraiment extrêmement dommage qu'il disparaisse réellement, parce que je crois que bon, la municipalité ne tient pas trop. Enfin, il doit y avoir beaucoup de problèmes autour de cette histoire. Et donc, sans doute, il passera pas à la postérité. Mais c'est un bâtiment exceptionnel aussi. Et ça, c'est vraiment le résultat d'un défi qui lui a été lancé par Nouvel. Donc, il y avait ce rapport avec Nouvel qui était de complicité, de reconnaissance de Nouvel, de reconnaissance de son intérêt. Encore qu'il n'était pas tendre, hein, Claude Parent, parce qu'il les envoyait, ses collaborateurs, il était très dur avec eux, en fait. Il n'était était pas du tout complaisant. Et Nouvel ne dessinait pas bien du tout.
Oui, il parle de ses planches dégueulasses.
Oui,
c'est ce que j'ai lu. Ou ses papiers dégueulasses.
Et donc, ces dessins dégueulasses, effectivement. Donc, Donc c'était et il ne lui envoyait pas dire. Enfin, c'était vraiment. Mais il a toujours reconnu l'intelligence et la force.
Enfin, et la finesse.
La finesse
de nouvelles, à saisir les situations.
Et nouvelles au début, ma foi. Il reconnaît maintenant. C'est un véritable hommage qu'il lui rend dans la préface de ce livre. Et il reconnaît maintenant l'importance que Claude Parent a eue sur son travail. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une période où il dénonçait le formalisme de Claude Parent. Claude Parent, en retour, dénonçait son contextualisme. Et puis...
Les débats sont toujours très vifs comme ça dans le milieu des architectes.
Ah oui, les architectes ne sont pas des gens tendres les uns envers les autres. Et là, justement, Nouvelle a reconnu, en particulier à propos du projet qu'il a fait sur la salle philharmonique à Paris, qui est vraiment une démonstration de la théorie de l'oblique, d'une certaine manière. Enfin, il reprend vraiment, c'est très fort, c'est très important dans ce projet. Et à propos de ce projet, il a reconnu l'importance que Claude Parent avait eue sur lui. Mais il a eu une importance, une incidence importante sur le travail de Nouvelle, mais il a eu aussi une incidence importante sur le travail d'Odile Deck, par exemple. Quand Odile Deck fait ce musée, le musée d'art contemporain de Rome, c'est vraiment très très empreint des théories de l'oblique. La même chose pour Tom Main quand il fait la tour de la défense. Tout ça, c'est la même chose pour Knox, l'architecte hollandais, avec la maison de l'eau. Donc tout ça, c'est effectivement, il y a une incidence extrêmement forte de Claude Parent sur la jeune génération.
La génération d'aujourd'hui.
La génération qui commence maintenant à être peu installée. Les jeunes architectes le connaissent de plus en plus. Il a enseigné, il a fait un workshop récemment à l'école spéciale d'architecture et où il a été entendu 5 sur 5 par des tout jeunes. Là.
Alors, ces recherches actuelles, parce qu'il continue, portent sur quel objet ?
Alors, ces recherches actuelles portent sur la ville. Et le travail de Claude Parent actuellement, c'est un travail sur l'incision. C'est-à-dire l'idée que la ville est une superposition de couches et que les couches vont se superposer, continuer à se superposer et qu'à un moment donné, il va falloir trancher dans tout ça. Il faut trancher dans tout ça pour retrouver l'horizon.
Donc, faire de la fracture, c'est un de ses maîtres mots.
C'est le maître mot, c'est la fracture, dans la continuité. Mais la fracture étant n'est pas en contradiction avec la continuité. La fracture est au contraire quelque chose qui permet de bouleverser à nouveau, de mettre en mouvement l'architecture pour
recréer du lien.
Recréer du lien.
On pourrait dire ça.
Exactement, c'est exactement ça son discours. Il explique qu'il y a un événement qui a eu lieu à Paris, je ne me souviens plus en quelle année, mais c'est quand les Champs-Élysées ont été donnés aux agriculteurs et qui ont transformé les Champs-Élysées en champs de blé.
Vous en parlez plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le livre, et visiblement c'est un événement qui a marqué Claude Parent pour Absolument. Plusieurs raisons. Alors, allez-nous peut-être nous éclairer, parce que les Champs-Élysées transformés en champs de blé, qu'est-ce que ça a pu dire à Claude Parent ? Et qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ?
Je pense que, pour Claude Parent, l'architecte, il parle de l'architecte assassin, en fait. L'architecte est quelqu'un qui encombre le sol, qui encombre le monde d'un certain nombre d'éléments. Et par là, il fait violence au monde. Ouvrir les Champs-Élysées à un champ de blé, c'était redonner sa force à la nature, c'était retrouver l'horizon.
C'était aussi faire ressurgir la terre.
C'était faire ressurgir la terre.
C'était ouvrir.
Voilà, c'était ouvrir. C'était faire ressurgir la terre et c'était donc redonner finalement sa force à la nature. Enfin, c'est redonner son droit à la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait effectivement, qui est sous-jacent à ces théories actuelles, qui est toujours dans ces théories actuelles. C'est-à-dire, il faut retrouver l'horizon. Il faut effectivement retrouver du lien en redonnant par l'architecture et le plan oblique en est un des éléments essentiels. Retrouver l'architecture a pour mission finalement de redonner du lien, de favoriser la rencontre entre les gens.
Cet événement que vous venez d'évoquer, Béatrice Simoneau, faire ressurgir comme ça le sol, aussi la terre nourricière en pleine ville, ça avait un caractère spectaculaire, mais ça a aussi un petit caractère utopique, aujourd'hui auquel on voudrait bien croire, avec toutes les questions de développement durable et les questions d'environnement qui semblent revenir sur le devant de la scène comme des priorités, y compris pour, et comme de nouveaux défis pour les architectes et pour les urbanistes. Claude Parent souhaite visiblement que les architectes reprennent leur rôle entier, enfin, j'allais dire dans leur totalité, sur ce qu'ils ont à proposer pour la ville, même si ce sont ces recherches actuelles. C'est quelqu'un qui s'est inscrit dans les avant-gardes et dans l'utopie. Qu'est-ce qui caractérise ce cheminement vers l'utopie ? Et l'utopie, l'univers de Claude Parent, cet univers utopique ?
Claude Parent ne situe pas l'architecture dans le fait de donner du bien-être ou d'apporter du bien-être.
Du confort, quoi.
Ou du confort.
L'architecture voilà. De confort, c'est pas son truc.
C'est pas son truc. Il parlera d'ailleurs plutôt d'architecture de l'effort. Et la fonction oblique, pour lui, est effectivement le plan oblique, devoir gravir le plan à l'oblique. Et puisqu'il a même inventé avec sa sœur, il a inventé une gymnastique à ce propos-là, là, un clipant. Et donc, pour lui, c'est l'architecture de l'effort.
Je disais quel est l'univers et le domaine. On parle d'architecture utopique. En quoi ce sont des projets ? Parce qu'il y a toujours un peu d'utopie dans les projets d'architecture de qualité qu'on voit. Les grands noms d'aujourd'hui font quand même tous un peu rêver par leur création, justement. Donc, qu'est-ce que ça peut être l'utopie aujourd'hui, en 2009 ? Bon, c'est à Claude Parent qu'il faudrait poser cette question, je suis d'accord. Vous qui avez travaillé sur, justement, son parcours, il a été qualifié d'architecte utopiste.
C'est un architecte de toute façon de l'expérimentation.
Voilà.
Son architecture, elle se situe dans le futur, elle ne se situe pas dans le présent. Et en ce sens, effectivement, c'est une architecture utopique. Mais parce que finalement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le rapport au monde qu'il entretient avec son architecture. Et bon, c'est pour les mêmes raisons en fait qu'il a fréquenté, il a commencé. Les premières utopies de Claude Parent, il les a fabriquées avec des artistes en réalité. Il a eu des relations extrêmement proches avec des artistes, aussi bien tout au début avec Bloch, qu'ensuite après avec Tinguely et puis Klein. Klein qui pour lui a été un personnage essentiel. Il a travaillé aussi avec Polieri, il a travaillé avec Agam, il a travaillé à fabriquer le théâtre à scène multiple avec Agam. Et c'est là où il a forgé ses premières utopies. C'est au contact des artistes qu'il a forgé ses premières utopies. Et ensuite, et en même temps, parallèlement, il construisait son rapport au monde à travers l'architecture. Mais donc avec l'idée que l'architecture n'était pas dans le présent, n'était pas une réponse à des préoccupations du présent, mais qu'elle elle avait pour mission de fabriquer le monde futur des individus, des gens, de la société. Donc, et ça, je pense que c'est de là où on peut dire, effectivement, c'est un architecte de l'utopie. Donc, mais c'est aussi, c'est surtout, à mon avis, un architecte de l'expérimentation. Il m'a dit en tout cas que, effectivement, pour lui, l'architecture n'était pas dans le résultat formel complètement, elle était plutôt dans l'émotion qu'elle procurait. Et donc la création, si vous voulez, effectivement...
Il parle d'une tour que je ne connais pas,
Tour Einstein.
Voilà, qui avançait vers lui.
Voilà.
Donc justement, l'architecture, les œuvres architecturales suscitent une expérience émotive.
Oui, absolument. C'est là d'ailleurs se trouve pour lui l'œuvre. L'œuvre se trouve effectivement dans l'émotion qu'elle procure. Et pas dans
pas
sa
dans la forme,
réalité concrète.
Pas dans l'esthétisme,
voilà.
C'est ça ?
Voilà, tout à fait. Et donc quand il parle d'ailleurs des chefs-d'œuvre pour lui, comme cette fameuse tour. Et donc, il dit effectivement que, quand je lui ai demandé de parler de ses chefs-d'œuvre, de ce qu'il estimait être des chefs-d'œuvre, il parle d'un certain nombre d'architectures, et généralement pas tellement dans leur totalité comme objet architectural, mais plutôt dans les sentiments que lui ont procuré le parcours de cette architecture. Il parle comme cela de l'architecture de Paul Andreu et de Roissy, de l'aéroport de Roissy. Hein. Et il raconte comment on descend dans les abysses du bâtiment pour remonter dans la lumière. Et c'est ça qui fait pour lui la qualité de cette architecture. Il parle de l'émotion qu'il a eue devant le Parc des Princes de Taillebert, avec cette démesure du porte-à-faux. C'est pas l'objet du Parc des Princes qui l'intéresse, c'est cette démesure et ce sentiment d'écrasement qu'il a éprouvé au contact de cette architecture. Et c'est, il parle de Nemosus, par exemple, aussi, et de bâtiment d'habitation de Jean Nouvel et de François Seigneur. Et là aussi, c'est l'émotion qu'il a ressentie dans ces architectures-là qui en font pour lui des chefs-d'œuvre, mais pas la forme elle-même, et rarement la totalité d'un objet. Il parle aussi de la tourette. Il parle du rayon de lumière qui arrive dans la chapelle de la tourette. Par le haut, on est tout au fond du puits et cette lumière arrive par le haut. C'est cela qui est pour lui important. De même que dans Sainte-Bernadette, l'émotion... c'est réellement, je crois, pour lui, son chef-d'œuvre quand même, Sainte-Bernadette. Et il parle aussi de l'émotion qu'on éprouve quand on est au pied de l'escalier et qu'on voit qu'on se retrouve à l'intérieur de cette enveloppe qui est où on retrouve finalement le mystère, enfin où on se trouve en présence du mystère, où on se retrouve complètement donc dans un monde qui permet le rapport au mystère. Et bon, pourtant, Claude Parent n'est pas quelqu'un de spécialement attiré par la religion. Il découvre réellement ce que c'est que le mystère.
Et il a vraiment rendu là presque un hommage à ce mystère.
Hein. Tout à fait.
On s'y sent effectivement très protégé quand on pénètre dans ce lieu.
Et avec un contraste avec un tellement important avec l'extérieur.
Voilà. Il suffit de monter quelques marches.
Voilà.
Il dit qu'il est né pour rire.
Oui, il dit qu'il est né pour rire, effectivement. Et pourtant, c'est un grand anxieux, Claude Parent. C'est quelqu'un qui a un sentiment de la mort qui est très fort. Il a un humour mordant. Il a un humour tout à fait mordant. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup ri avec lui. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'écriture de ce livre, dans les rencontres nécessaires que j'ai eues avec Claude Parent et nombreuses que j'ai eues avec Claude Parent avant de l'écrire. Et vraiment, on a ri. On a vraiment ri beaucoup. Il adore ça.
Et ses collaborateurs le disent, enfin, vous avez recueilli leur témoignage.
Oui.
Nouvel aussi le dit qu'il plaisantait.
Oui, tout à fait.
Et je crois que c'est...
Mais il est aussi... Il a l'inverse en même temps de cela. Il est vraiment... Il a cette peur, enfin, ce sentiment de la mort, cette peur de la folie. Il est borderline, toujours borderline. Aussi bien entre la raison et la folie qu'entre la mort et le rire et la vie.
En tout cas, il aime vraiment rire.
C'est vrai qu'il est délicieux. Enfin, je pense que tout le monde s'accorde à... Mais ça n'est qu'une facette du personnage. Mais c'est vrai que c'est celle qui est importante dans le rapport qu'on a immédiat avec les gens, bien sûr.
Alors, le titre initial n'était pas Le Fou de la Diagonale.
C'était Les Tribulations.
Les Tribulations.
Voyage et Tribulation de Claude Parent. La Diagonale est un titre qui a été emprunté à un article de Libération paru dans les années 70. Alors, Les Tribulations, oui, parce qu'en fait, le voyage, parce que c'est justement cette recherche permanente entre les pôles par lesquels il était attiré. Hein, c'était cette recherche, ce voyage d'un bord à l'autre qui faisait finalement, qui a tracé son cheminement dans la création. Et les tribulations, parce qu'il a quand même rencontré énormément de déboires.
Et dont il s'est toujours relevé au final quand même. Même s'il y a eu des traversées du désert, même s'il a passé de la star à des périodes où il était oublié carrément.
Il était complètement oublié, il était complètement banni même.
Aussi Il y a eu d'autres périodes.
Oui, il y a eu des périodes où vraiment il ne fallait pas parler de Claude Parent. Claude Parent donnait à rire ou alors à se fâcher complètement. Y compris sur le plan politique, beaucoup de choses lui ont été
fermées. Alors, il y a des choses qui l'ont sauvé, on n'en a pas parlé, mais oui. Ça a été tous les travaux qu'il a réalisés dans les constructions des centrales nucléaires.
Voilà. Après ce travail sur l'oblique et son aboutissement enfin, dans les réalisations qu'il a faites avec Virilio, il pensait qu'il avait démontré quelque chose. Il pensait qu'il était effectivement, qu'il avait atteint pour lui un point extrêmement fort.
Bah, son œuvre.
Son œuvre, voilà. Et donc, il a été terriblement déçu parce qu'au contraire, on le prenait pour un plaisantin, mais là, on le prenait vraiment pour un fou. Vivre à l'oblique, qu'est-ce que c'était que cette plaisanterie ? Et c'était même pas une utopie, c'était carrément une plaisanterie. Donc, il était abandonné complètement. Alors, il ne s'est pas laissé abandonner comme ça. Il a fait un certain nombre d'interventions, à ce moment-là, dans les maisons de la culture. Dans les années 70, début des années 70, des interventions dans les maisons de la culture. Il a fait le tour de France des maisons de la culture pour parler du plan oblique, pour parler de l'oblique. Et c'est là où il faisait ses fameuses démonstrations de gymnastique avec sa sœur, qui est danseuse, qui est une danseuse étoile.
Qu'il a beaucoup soutenue, comme toutes les femmes qui l'ont entourée, apparemment.
Comme toutes les femmes qui l'ont entourée, oui.
Son épouse.
Il a une épouse extrêmement efficace dans...
Sa sœur.
Et sa sœur a toujours été très présente. Donc...
Il a fait ce tour de France.
Oui, il a fait ce tour de France des maisons de la culture pour faire passer cette théorie. Mais bon, il n'y a aucune résonance.
Voilà.
Si l'accueil du public a été très important, a été très fort. Et tout ça, d'ailleurs, c'est aussi concrétisé à un moment donné par le. Il a été appelé comme commissaire du pavillon français à la Biennale d'art.
D'art et pas d'architecture. Et là, il a renoué avec cette idée de synthèse des arts qui lui avait été. Dont il avait bénéficié du temps de Bloch.
C'est ça, ouais. Tout à fait. Donc, il a travaillé avec un certain nombre d'artistes et le pavillon avait été transformé complètement dans un lieu d'expérimentation de l'oblique. Et les artistes travaillaient sur cette théorie de l'oblique et inséraient des œuvres à l'intérieur de ce pavillon.
Il y a toujours un côté un peu performance aussi, un peu expérimentation. C'était complètement assez en avance.
Voilà, tout à fait. C'était dans cette même période où il essayait de faire passer son message à travers les maisons de la culture. Et puis à partir de là, ça n'a pas porté les fruits qu'il escomptait. Ils ont mis malade et ils se retrouvaient vraiment abandonné de tout le monde, quoi. Enfin, vraiment exclu. Puis, ce qu'il a sauvé, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, le DF l'a appelé pour mettre en place une espèce de réflexion sur l'architecture des centrales nucléaires. Donc, il a constitué un comité, dont Andreu, d'ailleurs.
Parce qu'il était assez discret sur ce sujet. Moi, je n'ai pas lu grand-chose.
Il a été condamné. Enfin, cette centrale nucléaire, c'était quand même, ça n'avait pas une très grande renommée, comme maintenant, d'ailleurs. Mais donc, il y avait quand même un vrai problème avec les centrales nucléaires. Donc, il y avait des gens qui téléphonaient chez lui pour l'injurier. C'est sa femme... Nade Parent qui faisait barrière à tout ça, mais on l'injuriait vraiment. Mais qu'est-ce que c'était que ce travail de travailler pour les centrales nucléaires ? C'était absolument honteux.
Et donc, en quoi consistait ce travail ?
C'était effectivement de réfléchir à ce que pouvait être cette architecture.
Industrielle particulière,
à sa place dans le paysage, parce que quand même, c'est une les centrales nucléaires, il y a un certain nombre de contraintes techniques auxquelles on ne pouvait pas échapper. Et donc, la position de Parent là-dessus était d'ailleurs très claire. En fait, c'est l'architecture qui recréait le paysage. Il ne s'agissait pas de cacher, mais au contraire, de fabriquer un paysage avec cette architecture. Donc, mais tout ça, c'était aussi absolument pas du tout dans l'air du temps. Donc, il a été très critiqué. Par contre, ça lui a permis de ne pas fermer boutique.
Ça lui a permis d'échapper à la faillite.
Ça lui a permis d'échapper à la faillite. Ça lui a permis de relancer son agence, quand même. Mais avec à nouveau beaucoup de... il avait été pris pour un fou avec l'oblique, et là, il était pris pour quelqu'un d'épouvantable.
C'était une provocation supplémentaire.
C'était une provocation supplémentaire, absolument.
Perçue comme ça.
Et après, on s'est retrouvés dans les années 80, et là, dans les années 80, il y avait, dans le monde de l'architecture, quelque chose de relativement nouveau, qui était le concours. Et Claude Parent n'était pas fait du tout pour les concours. Pas du tout.
Alors vous racontez bien dans le livre là, Le Fou de la Diagonale, ben justement tous ces déboires avec les différents concours, ceux qu'il a remportés, mais ceux qu'il a perdus, ceux dont il n'a même pas réussi à publier les projets. Et c'est ça aussi qui fait qu'on connaît mal son œuvre. Hein. C'est parce qu'il y a peu de documents aussi, hein, quand même. Et puis, ce que vous racontez bien également, c'est son rapport aux autres, à ses associés, mais aussi aux règles. Et effectivement, ses concours avec leurs règles, c'était lui qui n'aimait pas la compétition pour la compétition. C'était un univers dont il a eu du mal à ouvrir les portes et à ouvrir des fenêtres pour s'en échapper.
Oui, absolument. Voilà. Donc, il a gagné très peu de concours, en fait. Et quand il les a gagnés, souvent, il n'a pas réalisé.
En tout cas, aujourd'hui, l'église Saint-Bernadette-du-Bonnet, elle est classée patrimoine mondial.
Oui.
Il est à l'Institut.
Oui, absolument.
Donc, on peut dire quand même qu'il a réussi un parcours haut en couleur.
Ah oui, voilà. Oui. Et puis, il a plusieurs architectures quand même qui sont inscrites et qui sont classées. Et bien, je pense que pour lui, l'Institut, c'est pareil. L'Institut, ça n'est pas un lieu d'arrivée, c'est un lieu de combat.
Voilà, à nouveau, et là, c'est sur les concours, le prix d'architecture de l'Institut, auquel il participe très, très activement. Béatrice Simoneau, merci beaucoup d'être venue nous présenter Le Fou de la Diagonale, Claude Parent architecte. C'est publié chez Actes Sud. Merci.
Merci aussi.